vous partager une réflexion sur la conscience, ce qui sait, et tout particulièrement sur le côté sage. On parle de Sammasati, la conscience sage, et ce côté Samma. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une conscience sage, et pourquoi cultiver cette compétence de la nature humaine? Pour pouvoir être et être avec une qualité de stabilité et de paix et de bienveillance et d'ouverture à autrui, il y a cette connaissance du qui suis-je que la conscience offre, permet. Et nous savons de plus en plus où est la libération et où elle n'est pas. Nous arrêtons de chercher à la mauvaise place, de vouloir contrôler, manipuler. Il y a moins de volonté, moins de sens du moi et plus de lâcher prise. Et au début, on est un peu fou, on croit que si les choses sont comme je les veux, alors je serai en paix. Et c'est au fond le contraire. Si j'arrête de vouloir les choses comme je les veux, alors la paix viendra. Et dans cette quête, c'est important de savoir que oui, tout est déjà en nous. Nous avons ce côté sage qui est là. Nous avons ce cœur qui engraine, a déjà la libération, mais que la nature de l'esprit, c'est aussi et beaucoup, quand même, avouons-le, de l'aveuglement et de l'ignorance. Ça n'est pas notre faute, il n'y a pas une erreur quelque part, c'est la nature de l'esprit. Nous ne serions pas sur cette terre si nous n'avions pas quelque chose à purifier. Nous venons ici pour ça. Alors, ce sont des mots, mais c'est une manière de concevoir la vie qui donne un sens très profond et très précieux. La nature humaine devient précieuse quand nous pouvons la concevoir comme ayant ce sens ou cette merveille de compétence de libération à l'intérieur de chacun. Et alors nous arrêtons de chercher à la mauvaise place parce que c'est ça qui devient prioritaire. Cette manière de cultiver une conscience qui soit efficace et puissante. Mais c'est une puissance totalement différente de la puissance du monde. C'est une puissance de réceptivité, de bienveillance, une puissance de rien, de compassion, de non-réactivité. Un cœur ouvert à une immense puissance. C'est la vraie force, celle du lâcher prise. Et alors souvent, nous pouvons constater que il y a une forme de déséquilibre. C'est pas tout à fait stable. Quelque chose me touche, je perds pied, et je peux très bien voir, la conscience me permet de voir que c'est instable ou douloureux ou confus, Mais ça ne suffit pas de juste voir et nommer. Nous pouvons voir et nommer notre tristesse, notre peur, notre rage. Qu'est-ce qui fait que cette conscience va permettre le lâcher prise? C'est sûr que la première chose, c'est d'être conscient. Et c'est pour ça que nous entraînons le premier fondement, qu'est le corps, parce que c'est lui qui va nous permettre, quand nous sommes au milieu d'un oubli, j'oublie complètement d'être là, c'est lui qui va nous permettre de nous souvenir et soit là. Et d'entraîner ça quand c'est neutre, de manière répétitive, équilibre cette autre puissance qui est celle de l'aveuglement sous forme de pensée obsessionnelle, identifiée, inquiète, frustrée, obstinée, chouchounette, mais franchement difficile et fatigante. Donc nous développons la conscience. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas immédiatement libératrice de l'expérience? Quelquefois, si nous observons bien, nous n'avons pas vraiment le bon objet de conscience. C'est-à-dire que nous sentons que quelque chose ne va pas, mais que nous ne voyons pas vraiment quelle est l'émotion prioritaire qui fait obstacle. Par exemple, nous pouvons avoir de l'agitation et puis nous sommes conscients qu'il y a de l'agitation. Et puis, ok, ben, je suis consciente qu'il y a de l'agitation, il y a de l'agitation, il y a de l'agitation, enfin, je suis consciente, il y a toujours de l'agitation. Et subtilement, il y a de l'aversion derrière. Peut-être que je suis consciente de l'agitation, mais dans le but qu'elle s'en aille. Et ça, ça n'est pas sama. Ça n'est pas sage. Parce que le bon objet de conscience à ce moment-là, c'est l'aversion. Je n'aime pas cette agitation. Je ne la veux pas. Et je continue à contempler l'agitation et ça n'est pas efficace parce que je n'ai pas vraiment questionné. C'est difficile d'accepter l'aversion. On a tellement envie d'être des bons garçons et des bonnes filles. C'est très chouette de vouloir être des bons garçons et des bonnes filles. Mais ce n'est pas ça qui permet le lâcher prise de la réactivité. C'est vraiment d'aller au cœur de ce respect de l'instant. Comment est l'instant? Et si nous questionnons, est-ce que j'ai le bon objet de conscience? Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai questionné, peut-être que je ne le vois pas tout de suite. Ah, c'est ok. J'ai fait ce qu'il y a à faire. Il y a une sorte de perspicacité à développer. Qu'est-ce qui est vraiment là? Et pour pouvoir mieux voir, nous pouvons nous souvenir que dans l'exercice de la méditation, on peut vraiment oser lâcher le bien et le mal. Il n'y a pas un truc bien et un truc mal. Il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables, il y a des choses bénéfiques, il y a des choses non bénéfiques. Mais je ne vais pas aller vers le bénéfique en voulant le bénéfique. Je vais aller vers le bénéfique en voyant l'instant quand il est non bénéfique. Et ça, c'est le bon objet de conscience. C'est d'accepter aussi que... Ok, c'est la nature de l'esprit. Juste maintenant, il y a de l'aveuglement, il y a de la douleur, il y a peut-être de la malveillance, il y a peut-être de la comparaison. celui-là il est mieux, celui-là il est moins bien, ou bien cette chose-là est mieux, cette chose-là est moins bien. Il peut y avoir de la peur de manquer. C'est douloureux, la peur de manquer. Manquer d'argent. Wow. Manquer de reconnaissance. Manquer de bonté. Ou de confiance. Manquer de sagesse. Et c'est là que nous avons ce choix entre venir avec un « Ah, bienveillant, ah ouais, là, il y a la peur. » En fait, il y a la peur. J'ai peur de manquer de reconnaissance. Le regard de l'autre est un défi extraordinaire à approfondir. Ah, il y a la peur. Ou bien, oh, j'ai peur. Et là, la conscience ne va rien faire. Ok, je vois ma peur, mais je ne la vois pas de la bonne façon. La conscience qui veut que ça s'arrête ou qui a peur de l'énergie dans l'instant n'est pas efficace. Elle perd sa puissance. Au fond, c'est un matérialisme spirituel. Je veux employer Sati, la conscience, pour que le moi obtienne quelque chose. Je ne comprends pas Dukkha. À ce moment-là, je me mets en opposition avec cette première vérité noble. Il y a souffrance. Et quand c'est chez l'autre, ça m'embête beaucoup, mais voilà. Mais quand c'est chez moi, c'est tout le corps qui se crispe. Parce que c'est là que le travail est à faire. Et c'est un gros travail. Dukkha, nous l'entendons d'abord avec nos oreilles. Et puis nous entrons dans ce travail de conscience, de rencontre. Les choses changent. On a toujours dans une retraite des moments délicats qu'on aimerait, que le moi aimerait bien ne pas avoir, mais que peu à peu la sagesse sait, ah ouais, chic, hein, juste maintenant c'est le chemin, ok, pas facile, mais courageusement j'y vais. Et puis, à un moment donné, de plus en plus, on a compris. C'est bon, on a compris. J'ai plus tant besoin d'aller y voir parce que j'ai compris. Alors, ça émerge, la conscience fait son travail et quelque chose d'autre, la vie continue. Avoir compris Dukkha. Quand j'ai compris Dukkha, le cœur est libre. Là, cet après-midi, ou ce matin, je marchais sur le chemin, puis tout d'un coup, j'ai eu un truc qui est venu de comparaison, de sorte de mal-être, malaise. Puis c'était chouette de voir comment, tout d'un coup, j'avais pas compris, hein, quelque chose, j'avais pas compris. Alors je regardais, ah ouais, fouf, c'est désagréable, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment là? La comparaison, la peur d'échouer, la peur de d'être rejeté, de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimé, c'est une grosse chose ça. Et quand c'est possible de vraiment s'ouvrir à ça, ah, mais c'est juste la peur de ne pas être aimé. Alors, tout à coup, l'esprit a de nouveau compris. Et c'est bon quand il retrouve cette stabilité ou cette paix ou cette équanimité. Mais ce n'est pas meilleur que quand il est en quête. Ça va complètement ensemble. Ah ouais, là, je suis en quête, c'est le chemin. Et tout d'un coup, ah bah c'est de nouveau le fruit. Et dans une retraite, c'est comme ça. Je me perds, je me retrouve, je me perds, je me retrouve. Et ce n'est pas la peine de vouloir absolument garder parce que quand je veux garder, ben, quelle est l'expérience? C'est la soif, c'est la cause de la souffrance. Peut-être pas tout de suite, mais à terme. Ce qui nous sauve, c'est ce témoin ou cet observateur silencieux. Je suis avec l'expérience, au plus intime de l'expérience, parce que c'est très intime d'oser se perdre. Et en même temps, je suis dégagée. Je ne tombe pas avec cette instabilité ou ce tremblement intérieur. Et lorsqu'il n'y a pas de contraction face à la souffrance, la conscience est. Et il n'y a pas non plus d'enchantement face à l'expérience positive. Le Bouddha parle, un des aspects de la libération, c'est le désenchantement. Nous sommes hypnotisés par l'expérience positive, non seulement au niveau matériel, affectif, social, mais aussi au niveau spirituel. L'extase, le bon karma. C'est le Bouddha qui dit, là où le plaisir et les états agréables émergent, à ces endroits-là, Mara prend racine et s'installe. Mara, c'est cette subtile manière qu'a l'esprit aveugle de s'identifier et de s'approprier l'expérience positive. Et de même que nous ne pouvons pas dire oui à ce qui est douloureux, nous disons trop oui à ce qui est bénéfique. À ce moment-là, la pleine conscience, Sati, n'est pas Sama, elle est colorée. Et elle est autant colorée par nos résistances que par notre hypnose de l'expérience positive. Donc ce que nous cherchons, c'est à ce que la pleine conscience devienne claire. Que ce qui sait soit du rien, du juste un espace de réceptivité, totalement, on pourrait dire, intouchable par la qualité de l'expérience. Et ça n'est pas que nous devenions indifférents, mais c'est que il n'y a pas d'identification. Je sais que tout concept est conditionné. Ce que je suis en train de vous partager là, totalement conditionné. Par mon passé, par le fait que vous êtes là, par... ce sont des conditions. Et du moment qu'il y a cette claire vision, oui, c'est des conditions. Elles sont bénéfiques. Mais c'est quand même des conditions. Ah, ça soulage. C'est Suzuki Roshi qui dit, oui, nous sommes tous en quête de l'éveil. Avant, c'est quelque chose de merveilleux. Après, ça n'est rien de spécial. Donc, avec cet observateur qui reçoit, qui ne fait que recevoir, qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de crainte ou d'inquiétude, nous pouvons laisser l'expérience tranquille. Et elle prend sa place. Je sais qu'elle est conditionnée. Donc, elle est dukkha, elle est parfois imparfaite, parfois bonne. Elle change. Et ce qui devient prioritaire, c'est ce lien que je crée à l'expérience ou cette qualité de réceptivité. Comment je me situe face à l'expérience. Et au fond, cet acte de connaissance, eh ben, il est suffisant, ça suffit. S'il y a cet acte de connaissance, l'expérience devient forcément précieuse. Parce qu'il n'y a plus besoin d'être quelqu'un qui devrait être autrement, qui devrait faire autrement, qui devrait réussir. Cette pulsion du moi, ça crée du stress. C'est ce qu'on appelle tanha, la soif, le moi qui veut, qui saisit, qui rejette, qui s'inquiète, qui complexifie tout. Et alors, il y a deux mouvements dans ce souvenir d'être là. Le premier qu'on appelle vitaka, c'est immédiat. J'étais dans je ne sais quelle construction, sympathique ou horrible, peu importe. Et tout à coup, je me souviens, ah oui, mais sois là. C'est immédiat. Suchito disait, vous plantez le drapeau. Je plante le drapeau de la sagesse plutôt que celui de l'aveuglement. Ok, je suis là. Mais ça ne suffit pas. Il y a à développer ce côté samma, ce côté sage. Comment est-ce que je suis là? Et ça, c'est ce qu'on appelle vichara. C'est l'investigation qui est un des facteurs de l'éveil. Nous employons notre intelligence pour questionner quel moyen habile est-ce que je peux employer? Quel est l'effort sage? Quoi faire avec cette conscience qui est là? Comment l'orienter? Et bien sûr, la première chose, c'est ce respect de l'instant. C'est là où j'ai le choix. Soit je vais dans comment changer, et je suis dans l'aveuglement, la réactivité, la séparation, les regrets ou les projections, ou bien je vais dans comment c'est. Et là, je contacte le cœur, l'intimité, la sagesse. Et ce comment c'est, je l'ai juste mentionné ce matin, il a vraiment à faire avec cette intimité corporelle. Le corps, c'est le premier qui réagit lorsqu'il y a un choc émotionnel, lorsque le contact fait trembler quelque chose. Et si j'apprends à vraiment sentir ce premier mouvement du corps, tout ce qui suit va s'arrêter. La représentation ne va pas devenir hypertrophiée. Je verrai bien, ok, c'est ça qui a créé tout ça. Contact, perception, ressenti, perception. Et surtout, je n'irai pas dans ces constructions au service du moi, qui disent regardez comme je fais bien, ou bien horreur, j'ai fait faux. L'esprit sait être silencieux. Puis c'est drôlement bon le silence. Ce soir, au souper, au biscuit, quand on mangeait ces biscuits, et que c'était tout silencieux, il n'y avait même pas le bruit des fourchettes, il n'y avait pas. C'est délicieux. Avec ce respect de l'instant, il y a ce retournement qui fait que je m'apaise. J'épaule le dharma, je fais ma part pour l'épauler, mais je le laisse faire. Il y a quelque chose où je laisse faire plutôt que de toujours être sur la sellette, sur le grill. Trop faire, nous faisons trop. Et ces moyens habiles, c'est aussi le souvenir des nobles vérités. Ce sont des vérités nobles parce qu'elles mènent à la libération. C'est tout différent quand j'ai un moment difficile de dire ah ben c'est dukkha. Ou de venir dans ce vague machin de malaise, de faute, de culpabilité, de jugement, que ce soit moi ou l'autre. C'est dukkha, quoi. C'est l'autre, il est dans dukkha. Est-ce que je peux lui laisser sa part de dukkha? Ou est-ce que j'ai besoin de le porter moi? Et nous avons tendance à porter dukkha pour l'autre, particulièrement nos proches. Ça nous fait du mal à nous et ça ne leur fait pas du bien à eux. Et cette deuxième vérité, tanha, soif d'existence. Ou soif de non-existence. Ce regard de l'autre dont je parlais tout à l'heure. Soit nous disons oh, si seulement je pouvais être quelqu'un d'autre que moi pour toujours. Ou bien nous disons j'aime vraiment ce que je suis, puis je suis juste étonnée que personne ne partage pas cet avis, que tout le monde voit pas que je suis bien. Et toi, ces deux mouvements, sentir. La soif de l'attachement. C'est une sorte de survie. J'essaye de survivre en m'accrochant à un moi qui n'est qu'une construction, qui au fond n'existe pas. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ce qui marche, c'est de faire comme le Bouddha. Je te vois, Mara. Je te vois. Là, dans une pipe, je suis vraiment dans la soif d'existence. J'ai vraiment peur du vide existentiel. Ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est l'énergie dans l'instant. Et que plus il y aura de sens du moi qui accompagne cette énergie, plus il y aura de souffrance. Et plus il y aura cette conscience qui reçoit et qui est libre est bienveillante et qui sait accueillir et lâcher, qui ne fait pas ce mouvement-là, moins il y aura de souffrance. La question, c'est de savoir si nous laissons l'expérience tranquille ou si nous stressons avec elle. Si nous nous laissons déstabiliser ou si nous voyons « Ah ouais, là je suis complètement déstabilisée. » Et comment c'est? Est-ce que je peux ressentir? Est-ce que je peux faire confiance? Être à l'écoute, m'intéresser? L'autre moyen habile qui peut être très utile, c'est la notion de l'impermanence. Parce que ça permet d'endurer. Si je me souviens que c'est impermanent, je vais éventuellement pouvoir laisser être l'énergie douloureuse dans l'instant. Je sais qu'elle va s'arrêter. Et c'est pour ça qu'en retraite, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Parce que nous savons que la cloche va sonner. Ok, il y a une heure d'assise. Je sais, ça va sonner. Donc certaines choses peuvent émerger qui ne pourraient pas émerger sans cette forme particulière. Lorsque c'est impermanent, la sagesse nous dit « Sois patiente, endure ». Et elle nous dit aussi, ne cherche pas à faire le clair au niveau conceptuel. Parce que l'expérience douloureuse implique forcément la confusion mentale. Une certaine confusion mentale. Et ce n'est pas à ce moment-là que je vais aller faire le clair. J'attends un peu que le cœur ait soufflé. Et le temps permet au cœur de retrouver un espace. Il est moins à l'étroit, il est moins oppressé. Et alors la clarté peut venir. Reconnaître les obstacles plutôt que identifier. Quand il y a l'agitation ou le sommeil, la torpeur ou l'aversion ou le désir ou le doute. Et avant de pouvoir vraiment avoir cette conscience sage ou ce qui sait, qui fait office de stabilisateur, nous reconnaissons, je reconnais humblement, oui, juste maintenant il y a ça, il y a cet obstacle. Je le nomme, je l'accepte et je le ressens dans le corps. Et lorsque je peux vraiment le ressentir dans le corps sans aucun désir qu'il lâche, pour rien, je le ressens, je l'aime. Alors, le témoin, la conscience devient prioritaire. Et la conscience, par définition, elle est bienfaisante. Le moi peut reconnaître, ah ouais, c'est vraiment ce que je veux aussi. Moi aussi, c'est ça que je veux. Je veux pas aller dans toutes ces histoires de réactivité, Il ne le sait pas, il ne sait pas vraiment qu'il ne veut pas aller là. Alors il y va par habitude, par schéma, par... Là j'ai fait une retraite avec Ajahn Suchito il n'y a pas très longtemps et puis à un moment donné j'ai eu une attaque d'impatience. Oh, on avait marre, tout le corps n'était pas content. C'était intéressant de voir que ça marche. Mm-hmm. Reconnaître, nommer, accepter, ressentir dans le corps et faire coexister cet aveuglement avec la sagesse. Ah ouais, mais il y a, en anglais, il y a ce mot très chouette, knowing. Je suis en train de connaître. Il y a ce qui sait. Et c'est bon, je suis en équilibre. Je n'ai pas besoin de changer l'expérience. L'impatience peut être là, complètement, ressentie, pleine. Mais elle n'a aucun poids, elle n'a aucun impact. Parce qu'elle est purifiée dans l'instant par la conscience qui a été travaillée, qui est devenue efficace. Et bien sûr, nous pouvons reconnaître les facteurs de l'éveil avec cette même qualité d'équanimité, de pure réceptivité, sans attachement. Et s'il y a attachement, ben c'est ça qui devient l'objet de conscience. Oh, il y avait une bonne concentration. Oh, ben maintenant je suis attachée. Je vois qu'il y a de l'attachement à cette concentration. Je vais la faire durer. Ok, faites-la durer, mais faites-le en pleine conscience. Je sais que je fais durer. L'instant où la vie, c'est ni bien ni mal, c'est pour la conscience. Ça soulage. Lorsqu'il y a ces poussées émotionnelles qui peuvent être redoutables, qu'elles soient sous forme d'angoisse ou de rage, ou sous forme d'hypnose à nos trucs positifs, peu à peu nous voyons ce que nous oublions. Nous voyons que nous avons oublié quelque chose de tellement important. Alors, c'est à nous de faire le travail, vérifier encore et encore comme on sait, ne donner aucun pouvoir à l'autre, mais vraiment prendre notre place. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire au monde. Il y a cette petite histoire. Qui dit où est notre vrai refuge. Du temps du Bouddha, un jeune moine passait ses journées au pied du maître, fasciné par ce qu'il disait, comment il agissait, son regard posé en permanence sur le maître. Et un jour, le Bouddha lui dit, « En fait, tu ne vois rien de moi. Pour voir le Bouddha, tu dois réaliser le Dharma, la vérité. » Seul celui qui réalise la vérité en lui-même est capable de me voir. Donc, s'engager dans le corps comme un corps. vous lavez le corps juste maintenant. Qui c'est qui l'a pas? Du moment que je demande, il est là. Hein. S'engager dans nos ressentis ou nos émotions comme des émotions et dans nos pensées comme des pensées. Et dans ma conscience comme une conscience. Et alors, il y a cette stabilité qui fait que nous pouvons recevoir les démons. Ils viennent et puis ils n'ont pas d'endroit où s'établir. Alors, ils partent. Et l'esprit, il est en même temps ferme et stable, mais aussi détendu et doux dans la mesure de nos personnalités. Prudence, prudence avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je vous lis Ajahn Chah, j'espère que je lis pas. En vérité, le bonheur est une souffrance déguisée, mais d'une manière si subtile que vous ne le voyez pas. Si vous vous accrochez au bonheur, c'est comme si vous vous accrochiez à la souffrance, mais vous ne le réalisez pas. Lorsque vous saisissez le bonheur, il est impossible de vous libérer de la souffrance inhérente à l'âme humaine. L'un et l'autre sont inséparables. C'est pourquoi le Bouddha nous a enseigné de porter l'attention sur nos douleurs, de les voir comme appartenant au bonheur, de les voir avec une égale ouverture. Ainsi, soyez prudents lorsque le bonheur arrive, ne soyez pas trop joyeux, ne vous laissez pas emporter par le bonheur. Et lorsque la souffrance vient, ne désespérez pas, ne vous perdez pas en elle. Voyez-les toutes deux comme ayant une égale valeur. Bon, Saskia, il y en a une là. Non, j'y vais. Je vais finir avec une parole de Krishnamurti. Parce qu'on parle du bouddhisme, mais c'est quelque chose, ce travail de l'ombre, c'est quelque chose qui existe dans toutes les traditions. Les pères du désert le disent d'une manière que j'aime beaucoup. Ils disent, garde ton âme en enfer et ne désespère pas. Et Krishnamurti le dit encore autrement. Le silence est difficile et plein d'embûches. Nous devons le prendre au sérieux. Ça n'est pas quelque chose que nous pouvons expérimenter en lisant un livre ou en écoutant un enseignement ou en nous asseyant ensemble ou nous retirant dans la forêt ou dans un monastère. J'ai bien peur qu'aucun de ces actes ne vous apporte le silence. Le silence exige un travail intérieur psychologique intense. Vous devez être brûlant de présence, présent à vos paroles, à vos attachements, à votre prétention, à vos peurs, à votre anxiété, à votre culpabilité, à votre orgueil et à votre jalousie. Et quand vous mourrez à tout cela, alors de cette mort peut éclore la beauté du silence. Nous mourrons à tout cela parce que nous le rencontrons. et les flèches de Mara se transforment en fleurs. Nous pouvons prendre un moment en silence.